Une question comme ça, combien seriez-vous prêt à payer pour assister à un événement sportif où un exploit sera réalisé par une légende du sport? Imaginez-vous que pour le record que LeBron James est sur le point de battre, le record du nombre de points de Kareem Abdul-Jabbar, il y a des gens qui sont prêts à dépenser au-delà de 100 000 $. Avec nous, il est professeur au département de communication à l'Université d'Ottawa et spécialiste en marketing sportif, Luc Dupont. Bonsoir, Luc.
Bonjour, Mario.
Alors, dis-nous, ça provoque une flambée assez phénoménale des prix, mais sans qu'on sache exactement quand le fameux match et le record, quand le record sera battu.
Effectivement, parce que le défi, alors je rappelle, il est à 63 points de battre le record. Il va jouer en Nouvelle-Orléans demain. D'ailleurs, ce qui est assez amusant, c'est que la NBA s'entend bien. L'argent, le pactole en termes de visibilité pour le match, on dit, ben vous allez avancer ce match-là. Normalement, ça devait commencer à 8 heures le soir. On a décidé que ça va commencer à 6 heures. Et autre fait non négligeable, c'est qu'on pense que lors de ce match-là en Nouvelle-Orléans, tiens-toi bien, il va y avoir 54% des fans qui vont avoir une chose en commun, c'est des fans de Los Angeles. C'est des gens qui auront, en d'autres mots, fait le voyage pour voir LeBron James en sachant pas trop ce qui va se passer. Remarque, normalement, là, si on se fie au prix des billets, c'est pas demain qu'on pense qu'il va remporter, qu'il va battre le record, mais c'est plutôt le 7 février. Et comment on fait pour établir ça? Ben, je te le donne en mille. C'est le prix des billets, évidemment, parce que c'est la revente de billets. Quand j'ai commencé à surveiller ça, il y a peut-être 24 heures, le chiffre sur lequel on s'entendait généralement, c'était 92 000 $ du billet.
Incroyable.
Ça, c'est le billet le plus cher, évidemment, tu auras compris. Là, en moyenne, c'était autour de pas très loin de 2000 $. Je te donne des chiffrons parce que le problème, c'est qu'en fonction de la plateforme, on te les vendra pas tout à fait, évidemment, au même prix. Et là, juste avant qu'on se parle, on est rendu à 200 000 $. Et je rappelle que ça n'inclut pas les frais de service. Dans ce cas-ci, si vous voulez acheter des billets, les frais de service, tiens-toi bien, attache ta tuque, c'est 46 000 $.
Ben voyons donc.
Donc, c'est une soirée à 246 000 $. Et j'oublie, il y a un frais, je pense, de 1,95 $ pour t'envoyer les billets par Internet. Remarque que rendu là, normalement, tu serais capable de le payer. Fait que ça, c'est la folie, évidemment. Puis, tu as le 9 février contre les Bucks. Puis là, déjà, le prix des billets diminue. Alors, le calcul qu'on fait, c'est qu'il va faire à peu près une trentaine de points contre la Nouvelle-Orléans. Puis, il devrait faire à peu près une trentaine de points contre Oklahoma, puis c'est à ce moment-là qu'il devrait battre le record.
À ta connaissance, donc, OK, il y a le record de points d'Abdul-Jabbar, mais le record pour le prix d'un billet, là, y a-tu déjà quelqu'un qui a payé plus cher pour assister à un événement? À ta connaissance, là?
Moi, j'ai jamais vu ça. Bon, on va faire un élément de comparaison. On est évidemment à un coin de rue du Super Bowl.
Oui.
Cette année, au moment où j'ai vérifié, là, puis on comprend que ça bouge constamment, là. Mais le billet le plus cher sur lequel je suis tombé, je te le donne, et là, je te le donne au dollar près, c'est 46 365 $. Et si tu cherches les billets les moins chers en revente actuellement, là, mettons que tu dis, moi, je vais gratter un peu, là, puis je vais économiser.
Oui, m'aller dans le pit en haut.
Oui, c'est ça, dans le pas cher. Alors, le pas cher, là, dans les moins chers, c'est 6100 $.
Wow! Ça, pour le Super Bowl, ça?
Pour le Super Bowl, exact. Et c'est assez remarquable parce que quand on fait la petite histoire du prix des billets, évidemment qu'on me dira, tu vas reculer loin, c'est normal que c'était moins cher. Mais je rappelle qu'en 1967, c'était 12 $. Si tu tiens compte de l'inflation par billet, si tu tiens compte de l'inflation, ça voudrait dire 99 $ aujourd'hui. Alors, ça signifie que l'inflation explique pas tout. Il y a d'autres choses qui s'est passé. Puis quand on essaie de gratter, là, à quel moment le sport a perdu la tête, là? Parce que je pense que les montants qu'on se donne là, on va tous s'entendre pour dire que c'est des montants extrêmes, là.
C'est de la démesure, oui, oui, oui.
C'est de la mesure. C'est 1996, où à un moment donné, soudainement, dans le cas du Super Bowl, on a vu des billets passer, là, on est passé à 35, 40, 50 $, puis là, soudainement, on était à 275, 350 $.
Quelle analyse peut-on faire là, du profil socio-économique, pour pas dire psychologique, des gens qui dépensent des montants semblables? C'est que c'est clairement, le sport professionnel est de plus en plus un produit de luxe, un produit de plus en plus niché, puis ben les gens qui font beaucoup d'argent, il faut bien le montrer quelque part.
Oui, on est dans l'ère du m'as-tu vu, hein? C'est Instagram, c'est TikTok, j'ai les billets, je suis sur la première rangée, je vais le montrer. Là aussi, si j'avais à pointer le moment, là, mon premier souvenir de quelque chose qui ressemblerait à « on est allé à quelque part, puis c'est important de le dire », là. Ce serait curieusement, dans le cas du hockey, c'est Wayne Gretzky qui se ramasse à Los Angeles.
Ah.
Et j'ai souvenir d'une entrevue de Luc Robitaille qui disait que c'était malade quand Wayne Gretzky est arrivé ici, soudainement. Après les matchs, on avait des superstars d'Hollywood qui venaient faire leur petit tour parce que le hockey était in dans le sens où il n'était pas... Il n'était pas comme mainstream, là. Il n'était pas grand public. Là. Puis, historiquement, là, dans le cas du hockey aux États-Unis, quand on jette un coup d'œil du côté du public et sur le plan sociodémographique, c'est des gens qui ont plus de sous. Et j'ai souvenir, par exemple, de quelqu'un à un moment donné qui s'occupait de vendre tous les produits dérivés lors des matchs des Flyers au Spectrum et des 76ers.
Oui.
Et qui disait souvent, les deux équipes jouent deux soirées consécutives, donc un arrière de l'autre, et la foule du hockey va générer des revenus 50 à 60% plus élevés que la foule du basket. C'était, en tout cas, dans le temps, ce qu'il avait constaté. Remarque aujourd'hui, je te dirais, pour ceux que j'ai des amis qui sont allés voir la NBA à Montréal récemment, qui est allé en fait en début de saison, un match hors concours, puis là, ce qu'on me disait, c'est « Ah, c'est une autre foule, hein? C'est une foule plus jeune, plus trendy, plus Instagram, d'ailleurs, fort probablement, que la foule de la Ligue nationale de hockey. »
Et est-ce que, par ailleurs, au-delà du prix des billets, par rapport au taux d'occupation des amphithéâtres pour le sport en Amérique du Nord, là, peut-être ailleurs, si tu veux, mais surtout en Amérique du Nord, est-ce qu'on s'est remis de la COVID? J'ai cru laisser dans les propos de Gary Bettman l'autre jour, quand il était de passage à Montréal, Luc Dupont, que lui, il vantait, en tout cas, il se régalait du fait que le taux d'occupation était très élevé en ce moment dans les amphithéâtres. Est-ce que c'est ce que les données te permettent de constater?
Bien, le problème que j'aurais pour te répondre de façon très, très sûre, c'est que Phoenix, cette année, joue dans un amphithéâtre de 5000 personnes.
Ah, ça fausse la moyenne.
Alors, évidemment que là, tu as du 100%, ou en tout cas, à peu près, j'espère, parce que sinon, on a un sacré problème. Alors, sur ce plan-là, c'est un peu difficile de te le donner en termes de pourcentage, mais quand je jette un coup d'œil du côté de la Ligue nationale comme de la NBA, je te donne deux petits chiffres rapides. 2019-2020, donc on est dans, mettons, l'avant-COVID, puis un petit bout de la COVID, là, 2020, tu te rappelles, c'était en mars,
oui.
Ça a commencé à glisser. Cette année-là, du côté de la Ligue nationale, la moyenne d'assistance, c'était 17 157. Par match. Donc, c'est quelque chose de respectable. En 2021-2022, donc là, soudainement, on est dans la COVID, puis mettons aux États-Unis l'après-début de l'après-COVID, mettons à peu près comme ça. Là, on était à 15 780. Alors, il y a eu une séquence assurément plus difficile. Plus récemment, je te donne les stats de la NBA. Alors, l'avantage avec la NBA, c'est qu'il n'y a pas le problème de Phoenix dont je te parlais un petit peu plus tôt. Pour 2022-2023, actuellement, on est évidemment toujours dans la saison, c'est pas complété. Là, ce qu'on remarque, c'est que par rapport à l'année précédente, c'est plus 5 %. Alors, ce que ça donne à penser, c'est que lorsqu'on a recommencé les activités, initialement, il y a un petit pourcentage de gens qui n'ont pas levé la main. Puis là, semble-t-il que graduellement, ces gens-là reviennent au bercail.
Je reviens donc au billet, là, tout près de 200 000 $ du billet pour aller voir LeBron James battre le record de Kareem Abdul-Jabbar. Bon, il y a l'exploit, mais il y a aussi la vedette, les vedettes, Luc Dupont, et l'effet d'attraction de ces vedettes-là. Un peu comme au cinéma, là, quelle vedette as-tu sur ton poster, sur ton affiche? Dirais-tu qu'on est dans une ère, l'Instagramisation du sport, où c'est plus important d'avoir une méga vedette dans un film moyen que d'avoir une bonne équipe qui aspire à des championnats sans sa vedette? Tu sais, je pense à Joey Saputo qui se posait la question il y a quelques années. Je suis mieux d'avoir un joueur à 6 millions, d'en avoir 3 à 2 millions, si tu suis mon raisonnement. Qu'est-ce que tu as à me dire là-dessus, Luc? Oui,
méchante bonne question. Je te dirais que malheureusement, aujourd'hui, ce qui est important à la fin, c'est le produit spectacle. Hein? On parle souvent du sport spectacle. Et ça n'a jamais été aussi vrai qu'aujourd'hui. Là aussi, je reculerai un petit peu dans le temps parce que je pense à Bobby Hull qui est décédé la semaine dernière, qui est au fond celui qui a initié la folie des salaires, en tout cas certainement du côté du hockey. Je rappelle que jusqu'à ce moment-là, en 72, un contrat, en fait un bonnet de signature d'$1 million, on n'avait jamais vu ça. Puis il était tellement convaincu que le chèque passerait pas, je le précise, c'est qu'il avait engagé quelqu'un pour aller changer le chèque à la banque. Il lui a dit... Tu me rappelleras quand le chèque sera passé, puis quand tu auras l'argent dans le compte. Et c'est à ce moment-là qu'il a signé le contrat avec les Jets de Winnipeg.
Hey, c'est bon,
et
ça.
Il avait signé le contrat aux États-Unis pour des raisons fiscales également. Et je précise que dans le 1 million, il y avait quatre équipes de l'AMH qui avaient dit « Il va être tellement bon pour la game, pour l'AMH, il va la mettre sur la map. Alors, je précise pour les plus jeunes qui nous écoutent que momentanément, au début des années 70, on avait une deuxième ligue en compétition avec la Ligue nationale de hockey. Donc, ça va tellement être bon pour la produit AMH que on va accepter de payer une partie du boni. Je ne sais pas si tu imagines aujourd'hui, le Canadien signerait un joueur, puis Toronto dirait, ça va tellement être bon pour la Ligue, qu'on va vous donner des centaines de milliers de dollars pour vous donner un coup de main. Évidemment qu'aujourd'hui, ça serait absolument impossible, mais on l'avait fait à ce moment-là. Alors, je reviens à ta question. Si je suis cette logique-là, ce qu'on s'aperçoit, c'est que pour le meilleur et pour le pire dans ce cas-ci, un joueur peut souvent faire toute la différence sur le plan de la visibilité d'une équipe, même si au final, il n'y aura peut-être pas les résultats promis sur le plan des résultats de l'équipe, j'entends ici. Alors, je comprends que c'est à la mode sur le plan des relations publiques de dire « tu diras que c'est un effort d'équipe », mais à la fin, on comprendra que sur le plan du marketing, malheureusement, c'est autre chose. Et ça explique, Mario, pourquoi, quand on se met à y réfléchir, il y a tellement peu d'équipes de sport professionnel cotées en bourse. Parce que dans le fond, à la fin, le problème, là, c'est ou bien je paye fort, puis je vais moins rentabiliser les opérations, ou bien je paye un petit peu moins fort, puis on va peut-être générer plus de fric, mais on ne sera peut-être pas une équipe aussi extraordinaire. Alors, je reviens à ton idée de départ, là.
On aime-tu voir Caulfield contre un but ou le Canadien gagner? C'est sûr que tu aimes mieux voir Caulfield contre un but gagnant pour le Canadien, mais le monde peut se contenter, on dirait, d'un but de Caulfield. Tu sais, les gens me disent « Ah, il est blessé, là, c'est plate, je sais plus si je vais aller voir. » Comme quoi, l'effet de la vedette, là, c'est majeur. Oui, un petit quelque chose à ajouter là,
et plus que tu parles de ça, Mario, on l'a vu évidemment photographié dans son lit d'hôpital,
oui.
J'ai bien compris.
Oui.
Alors, vois-tu comment ça, autrefois, là, puis je sais que toi et moi, on suit ça depuis beaucoup, beaucoup d'années, c'est pas quelque chose qu'on aurait pu imaginer autrefois. Il y avait comme une ligne autrefois, là, ce que j'appellerais la vie privée là, du joueur. On connaissait pas les blondes parlaient pas sur des Instagram. On savait pas qu'un tel allait déménager prochainement puis retourner chez eux parce que c'est sa conjointe qui nous le dit. Puis j'ai toujours amusé de voir des gens dire sur les médias sociaux par la suite, peut-être qu'elle savait pas qu'on était en train de lire ce qu'elle était en train de raconter. Évidemment que tu auras compris qu'à partir du moment où elle dit à des milliers de personnes, très rapidement, tout ça va...
Mais Luc, tu me ramènes dans le temps en disant ça avec la photo de Cole Caulfield à l'hôpital. Tu te rappelles-tu d'une entrevue avec Bernard Geoffrion à l'hôpital en noir et blanc? Et c'est devenu un classique de la télévision où il disait qu'il avait une blessure à la laine.
Oui, oui, oui. Absolument. Et dans le temps, tu peux être certain que là, on était probablement dans ce que j'appellerais de l'improvisation, alors qu'aujourd'hui, on a des équipes de relations publiques qui sont autour de tout ça puis qui se posent toujours la question en quoi ça peut favoriser l'image de marque de l'équipe puis en quoi ça peut défavoriser le branding de la compagnie au sens propre. À cet égard-là, je reviens avec LeBron James, c'est quelque chose de remarquable parce que voici quelqu'un qui a généré dans sa carrière au-delà d'1,3 milliard de dollars à la fois commandite et terrain. Et je précise, puisqu'on parle de hockey et de business, qu'il possède une partie des Penguins de Pittsburgh. Une partie des Red Sox de Boston. Il possède une partie de Liverpool, le club de soccer, la première ligue.
Mais Pittsburgh,
il possède
je savais
une partie
pas,
du Fenway Park. Oui.
Je savais pas. Le groupe, ben oui, ils ont acheté les Red Sox. OK, là, je connecte toutes les affaires ensemble. C'est bon que tu me dises ça. Hey, on doit mettre fin à la chronique de ce soir, mais c'est vraiment intéressant. Puis je te lance une piste pour une prochaine discussion. Je sais pas si tu as vu Phil Mickelson haranguer Tiger Woods, tu sais, Live Golf, PGA. Puis là, les gars, ils aimeraient ça, un peu comme la Ryder Cup ou des affaires de même, faire une espèce de duel PGA contre Live Golf, ce qui viendrait en quelque sorte, si tu veux, donner... c'est comme accueillir les Russes aux Jeux olympiques, si le lien n'est pas trop tordu, là, qui viendrait donner une légitimité à Live Golf. Mais ça serait regardé en temps. Et là, Mickelson qui dit à Tiger Woods sur Twitter, on va y laisser utiliser son card s'il veut participer. Fait que tu t'imagines, ça va faire parler, ça, hein?
Oui, absolument. Et tu vois, on se parlait de hockey tantôt, je reviens dans le passé, mais c'était aussi à une autre époque, l'AMH avait dit à la Ligue nationale, on va faire une finale, notre gagnant contre votre gagnant. Et tu devines que la Ligue nationale n'a jamais refusé, jamais accepté, parce qu'elle n'avait rien à gagner, évidemment.
La PGA ne voudra jamais accepter, donc, j'imagine.
Exact. Non, je suis convaincu que jamais, jamais. Et puis là, ça, c'est une toute autre histoire, mais je précise là aussi qu'il y a des joueurs cette année qui, pour juste la saison de cette année, ont fait l'équivalent de 4, puis de 5, puis de 6 saisons dans l'ancienne Ligue. Hein. Fait que secrètement, ils nous le diront jamais, là, mais...
Ah, c'est hallucinant. Hey, Luc Dupont, merci beaucoup. C'est tellement intéressant. Je te souhaite un excellent week-end. Va te rouler en boule dans une grosse couette. Merci d'avoir été là. Bye-bye.